Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng.
Bonjour et bienvenue à tous. D'abord, bien sûr, tous mes voeux, les meilleurs possibles, à vous toutes et tous pour cette année 2025, qui ne commence pas vraiment sous les auspices les plus favorables, mais au moins chaque début d'année est l'occasion de s'efforcer de reconstruire l'espoir, un espoir de paix avant tout, même si ça n'a pas l'air gagné d'avance. Hein. Alors, au trimestre dernier, nous avons repris nos travaux en constatant les effets du gros pavé qu'est l'esprit des lois de Montesquieu, jeté en passant par le Japon dans la mare de la Chine de la fin du XIXe siècle. Et nous avons observé que la réaction des élites chinoises a été à la fois d'accepter dans toute sa nouveauté cette autre façon de concevoir l'art de gouverner, mais en même temps d'en rechercher des antécédents, pour ainsi dire, autochtones dans le grand réservoir des classiques confucéens. Alors, il faut essayer de se remettre en situation et se figurer comme ça peut être dur d'être brusquement et brutalement décentré alors que on s'est perçu depuis 2000 ans comme l'unique centre civilisateur du monde, voire comme le monde à soi tout seul, hein, avec cette fameuse notion de tianxia, hein, tout ce qui est sous le ciel. D'où le réflexe de se raccrocher aux meubles qui peuvent encore être sauvés, histoire de se conforter dans l'idée qu'on n'est pas voué à disparaître totalement dans la poubelle de l'histoire et qu'on compte encore pour quelque chose. Et c'est donc ce qui a donné lieu à ce qu'on a appelé le min ben si xiang, c'est-à-dire donc littéralement la pensée du peuple au fondement de l'ordre politique, idée donc identifiée comme d'origine confucéenne. Alors on voit clairement dans cette idée la volonté des intellectuels chinois modernistes de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui sont, il faut s'en souvenir, encore des lettrés de culture traditionnelle confucéenne. Donc, il s'agit pour eux de trouver dans la tradition chinoise qui leur est familière des fondements ou ce qu'ils appellent des germes de la pensée démocratique occidentale. Et donc, cette min ben si xiang, cette pensée du peuple au fondement de l'ordre politique, elle est commune à la génération des intellectuels qui sont nés dans les années 1880-1890, comme c'est le cas de ces deux grandes figures que vous avez sur la diapositive. Donc à droite, Chen Duxiu, qui est né en 1880, mort en 1942, et à gauche, Hu Shi, donc né en 1891, mort en 1962. Alors, il faut se souvenir que Chen Duxiu a, même dans sa jeunesse, passé les examens mandarinaux, alors que Hu Shi, qui est né seulement 10 ans plus tard, n'a pas pu les passer pour la bonne raison que ces examens avaient été abolis en 1905. Alors, ces deux figures emblématiques sont unies dans le même combat moderniste du mouvement du 4 mai 1919, mais nous avons vu que leur destin diverge à partir de là pour aboutir à des parcours diamétralement opposés, puisque d'un côté, Chen Duxiu fera partie des fondateurs du Parti communiste chinois en 1921, tandis que Hu Shi finira par rallier le régime de la Chine nationaliste, hein, du Kuomintang, à Taïwan après 1949. Donc, politiquement parlant, on ne peut pas imaginer destin plus opposé. Alors, comme nous l'avons vu, la pensée Minben est fondée en réalité sur un tout petit nombre de citations, donc tirées du corpus confucéen. Elles sont en général très brèves, complètement tirées hors de leur contexte, et ce sont toujours les mêmes qui reviennent. À commencer en particulier par cette citation du Mengzi 7b14 sur donc la primauté du peuple. Alors, vous avez ici cette formule qui est mise en scène sur le site d'études nationales, comme on dit en chinois, Guoxue, qui s'appelle le Kong Meng Zhixiang, c'est-à-dire au pays de Kong, Confucius, et Meng de Mencius. Et je vous rappelle donc que cette citation dit que Ming Wei Gui, She Ji Ci Zhi, Jun Wei Qing. Donc c'est le peuple qui est le plus Gui, c'est-à-dire le plus noble, le plus important. Ensuite, viennent les symboles du pouvoir d'État, c'est-à-dire les autels des esprits protecteurs de la terre et des grains. Ce sont les autels où l'on offre justement les sacrifices officiels. Et Jun Wei Qing, donc le prince, c'est ce qui littéralement pèse le moins, c'est ce qui est le plus léger littéralement. Alors, dans cette phrase si souvent citée, Mencius, donc maître Meng, semble dire qu'il y a trois incarnations du pouvoir politique. Vous avez le peuple, vous avez l'incarnation symbolique que sont ces autels, hein, de la terre et des grains, hein, et le souverain. Et alors, dans un apparent paradoxe, Mencius renverse l'ordre de priorité que l'on attendrait, hein, c'est-à-dire qu'on attendrait plutôt donc le prince d'abord, les symboles de l'État ensuite et le peuple en dernier. Hein. Alors évidemment, cette inversion de l'ordre de priorité n'a pas manqué de faire de Mencius, et là je cite Hu Shi, donc le premier et peut-être le plus grand philosophe de la pensée politique démocratique de l'histoire de l'humanité. Bon, alors ce que dit Hu Shi ici dans son enthousiasme moderniste, c'est que la Chine évidemment doit embrasser les valeurs démocratiques, mais il ne faut pas oublier que en fait le premier penseur démocratique est chinois, hein, et il a vécu au IVe siècle avant l'ère chrétienne. Donc, comme d'habitude, ce sont les Chinois qui ont tout inventé, y compris donc la démocratie. Bon, alors son double, si j'ose dire, moderniste, Chen Duxiu, lui, se montre d'emblée beaucoup plus circonspect, puisqu'il dit ceci: le démocratisme occidental est basé sur le peuple en tant que corps souverain, hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est le peuple qui est véritablement le souverain. Hein. Et ensuite, Chen Duxiu reprend justement toutes ces citations, ces lieux communs de la pensée Minben, c'est-à-dire l'idée que le ciel voit et entend par les yeux et les oreilles du peuple, que le peuple vient en premier, le prince en dernier, que le peuple est le fondement du pays. Hein. Tout cela, continue Chen Duxiu, est fondé en réalité sur les autels du sol et du grain, c'est-à-dire le pouvoir du prince, c'est-à-dire, en dernière instance, sur l'héritage ancestral du prince. Autrement dit, tout cela revient à dire que la réalité du pouvoir appartient, en fin de compte, au prince. Donc, toute cette histoire d'inversion de l'ordre de priorité est tout simplement rhétorique. Alors, bizarrement, dans ce petit lot de citations de la pensée Mimpen, on constate que la plupart sont tirées du Mengzi, du Mencius, mais il n'y a pratiquement aucune référence aux entretiens de Confucius eux-mêmes. Et pourtant, il y en a une qui me paraît tout à fait pertinente. Je m'étonne un petit peu qu'elle n'apparaisse pas justement dans cet ensemble des citations Mimpen. C'est celle qui figure au livre 12, section 7, des entretiens de Confucius. Alors, vous avez un dialogue, comme d'habitude, du maître avec ici un de ses disciples qui s'appelle Zigong. Et alors Zigong, Wen Zheng, c'est-à-dire il vient interroger le maître sur Zheng, c'est-à-dire sur la manière de gouverner. Qu'est-ce qu'il faut pour gouverner ? Alors ça, c'est une question qui revient très souvent dans les entretiens, puisque les interlocuteurs de Confucius en fait viennent le trouver en tant qu'expert justement de l'art de gouverner. Et le maître répond: Zi yue, zu shi, zu bing, min xin zhi yi. Il répond donc: il faut donc assez de shi, c'est-à-dire de nourriture, hein, de vivre. Zuping, c'est-à-dire assez d'armes, hein, suffisamment d'armement, et il faut que le peuple fasse confiance donc au souverain. Et donc Zigong reprend: Bi bu de yi er qu, yu si san zhe he xian. Donc si on ne pouvait pas faire autrement que de se passer d'une de ces trois choses, hein, laquelle serait-ce en premier? Et le maître répond: Yue Qubing, se passer de l'armement. Zigong Yue, Zigong reprend: Bi bu de yi er qu, yu si er zhe he xian. Et si on ne pouvait pas faire autrement que de se passer d'une des deux choses qui restent, laquelle serait-ce? Yue, la réponse, c'est qu shi, hein, c'est-à-dire on se passe des vivres. Zi gu jie you si, min wu xin bu li. C'est-à-dire littéralement, depuis la plus haute antiquité, hein, tous nous sommes voués à mourir. Hein, ça, Confucius n'a rien inventé là. C'est encore valable aujourd'hui d'ailleurs. Si le peuple n'a pas confiance, rien ne saurait tenir debout. Alors ici, le sujet du verbe bouli, hein, peut être un petit peu ambigu, c'est-à-dire soit c'est un peuple qui n'a pas confiance ne peut pas tenir debout, hein, ou alors, puisqu'on est en train de parler de l'art de gouverner, hein, ça peut vouloir dire aussi que sans la confiance du peuple, aucun gouvernement ne saurait tenir. Là, vous avez un ordre de priorité qui est pour le moins paradoxal, hein, somme toute plutôt du genre radical, hein, c'est-à-dire que Confucius dit tranquillement que la défense et l'économie, on peut s'en passer, hein, parce que de toute façon, il faut bien mourir d'une façon ou d'une autre, hein, Mais la seule chose dont on ne peut pas se passer, c'est la confiance du peuple. Et là, je trouve qu'il y a une leçon à méditer pour nos dirigeants actuels, quels qu'ils soient. Bon. Alors, toujours est-il que sur les sites, ces fameux sites d'études nationales, Kuoxue, on trouve littéralement à l'appel des monceaux d'articles qui tous répètent en boucle la même idée que ce sont au fond des penseurs confucéens qui ont mis le peuple au fondement de l'ordre sociopolitique. On ne peut donc être que très surpris de découvrir dans le tas une voix discordante et critique comme celle de ce professeur de l'université Fudan de Shanghai, Liu Qingping, que je mentionnais la dernière fois, et qui est donc l'auteur de cet article qui date de 2014, a été reproduit donc en 2015, et qui s'intitule « Mengzi Mingui Shuo de Shi Zhi Shi Zunjun », c'est-à-dire donc la théorie de la primauté du peuple de Mencius revient en réalité à Zunjun, c'est-à-dire au culte du prince. Et je vous ferai remarquer que c'est exactement ce que disait Chen Duxiu en son temps. Alors, Liu Qingping, qui lui est un universitaire, en appelle à remettre ces citations dans leur contexte, ce qui permet de voir que cette pensée Minpen fait dire à ces citations exactement le contraire de ce qu'elles disent textuellement. Alors, c'est sans doute là la raison pour laquelle, en juin 2015, le professeur Liu Qingping s'est attiré les foudres de ce qui semble être des fondamentalistes confucéens qui l'accusent d'hérésie et qui vont jusqu'à... ils sont allés jusqu'à appeler à son expulsion de l'université Fudan. Donc c'est assez violent. Et là, vous voyez donc cette phrase que j'ai surligné en rouge, c'est-à-dire je suis un confucianiste critique du confucianisme. Et ça, c'est une position qui est considérée comme totalement hérétique et inacceptable, justement, dans les milieux de ces fondamentalistes confucéens. Je rappelais la dernière fois qu'ils s'en sont pris également au grand historien de l'université de Pékin, Li Ling, qui a eu le culot, si j'ose dire, d'intituler un livre sur Confucius, Confucius chien errant, qui est pourtant une simple citation justement d'une biographie de Confucius, où Confucius compare lui-même à un chien sans famille, un chien errant. Et là, Li Ling s'est vu justement voué aux gémonies et a dû même demander une protection policière. Donc, vous voyez que le confucianisme n'est pas exactement un monde d'harmonie, pas toujours. Bon. Alors, pour en revenir à la méthode que préconise le professeur Liu Qingping, prenons comme exemple le fameux passage du Mengzi 5 à 5 que nous avons lu précédemment et où il est question de la passation de pouvoir entre les deux grands sages de l'Antiquité mythique, confucéenne, entre Yao et Shen. Alors, je vais relire ce passage pour vous le remettre en mémoire dans la traduction de André Lévy, qui est paru aux éditions Rivage, en édition de poche. Donc là, je leur tire mon chapeau. Ils ont réussi à faire tenir tout le Mensus dans un livre de poche comme ça. C'est pour moi l'occasion justement de rendre hommage à un très grand sinologue décédé, qu'est André Lévy, qui est né en 1925 en Chine, à Tianjin. Il était fils d'un horloger installé en Chine. Et donc, en fait, pour lui, le chinois était une langue maternelle, pratiquement. Et ensuite, donc, il a fait une carrière essentiellement d'universitaire et de très grand traducteur devant l'Éternel. C'est lui qui, notamment, a traduit tout, des très longs romans d'époque Ming et Qing, que sont le Xiyouji, c'est-à-dire les pérégrinations vers l'Ouest, et le Jinping Mei, c'est-à-dire ce qu'il a traduit par fleur en fiole d'or, deux très grands romans chinois, parus donc dans l'édition de la Pléiade. Donc ce André Lévy, qui pour moi était aussi un très grand maître, est décédé en 2017 dans sa maison près de Bordeaux, puisqu'en fait il a fini sa carrière à l'université de Bordeaux. Et bon, donc pour moi c'est vraiment l'occasion de lui rendre hommage. Et donc vous avez ici la couverture de sa traduction du Mensus qu'il m'avait envoyé personnellement en me disant: voyez donc, je suis tombée bien bas, j'en suis réduite à traduire des auteurs confucéens, parce que André Lévy est bien connu justement pour ses traductions justement de littérature en langue parlée, comme on dit justement en paérois. Je voudrais quand même rappeler que sa traduction de Mensus est tout à fait respectable. Alors, dans ce passage du Mensus 5 à 5, vous avez ce dialogue entre un dénommé Wan Zhang et Maître Meng Mensus. Alors, Wan Zhang demande: est-il vrai que Yao donna l'empire du monde à Shun? Mensus répond: faux, c'est-à-dire non. Le fils du ciel ne peut pas donner l'empire. Mais alors, reprend Wan Zhang, puisque Shun avait l'empire, qui le lui avait donné? Réponse: c'est le ciel qui lui avait donné. Wan Zhang reprend: est-ce que le ciel lui avait conféré l'empire avec des instructions détaillées? Réponse: non, le ciel ne parle pas. Alors oui, voici l'original. Donc le ciel ne parle pas, il avait seulement manifesté sa volonté par son action et les événements qui s'en suivent. Wan Zhang reprend: manifester sa volonté par les actes et les événements, qu'est-ce à dire? Réponse: le fils du ciel peut recommander quelqu'un, il ne peut contraindre le ciel à lui donner l'empire. Les grands vassaux peuvent proposer quelqu'un au fils du ciel, mais ne peuvent l'obliger à l'accepter parmi ses vassaux. Les grands officiers peuvent recommander quelqu'un à un grand vassal, ils ne peuvent l'obliger à lui donner la charge de grand officier. Yao recommanda jadis Shun au ciel et il fut agréé par le ciel, il fut présenté au peuple et accepté par le peuple. C'est pourquoi on dit que le ciel ne parle pas, il manifeste sa volonté par les actes et les événements sans plus. Alors Wan Zhang reprend: puis-je me permettre de vous demander comment il fut recommandé, comment Shun fut recommandé et agréé par le ciel, comment il fut présenté et accepté par le peuple? Réponse: il lui fit présider les sacrifices dont jouirent tous les dieux, c'est ainsi que le ciel donna son agrément, Il lui confia la direction des affaires, elles furent bien gérées et le peuple en fut content. C'est ainsi que le peuple l'accepta. Le ciel le lui avait donné, les gens le lui avaient donné, c'est pourquoi on dit que le fils de ciel ne saurait donner l'empire à qui que ce soit. Shun fut le ministre de Yao durant 28 années. Cela n'aurait pu se faire par la volonté d'un homme, c'était celle du ciel. Lorsque Yao décéda et que les 3 années de deuil furent écoulées, Shun se retira loin du fils de Yao, au sud du fleuve du Sud, mais les grands vassaux de l'Empire, venus rendre hommage à la cour, allèrent à Shun, non pas au fils de Yao. Les plaideurs allaient à Shun et non au fils de Yao. Les bardes chantaient les louanges de Shun, non pas celles du fils de Yao. C'est pourquoi l'on disait « c'est le ciel qui le veut ». Ce n'est qu'après ces événements que Shun se rendit aux pays centraux et occupa la position de fils du ciel. S'il était demeuré au palais de Yao et on avait chassé le fils, cela aurait été une usurpation, non point le don du ciel. Comme le dit la grande harangue, un passage du livre des documents, « Le ciel voit par les yeux de mon peuple, le ciel entend par les oreilles de mon peuple. » C'est la citation que vous avez tout en bas de la diapositive. Surligné en rouge, c'est Tian Shi Zi Wo Min Ting. Et donc, c'est cela que cela veut dire. Donc, vous avez cette très longue citation qui fait partie, alors c'est la plus longue, qui fait partie de ce corpus de la pensée Minpun, qui donc se prononce apparemment contre le principe de la transmission héréditaire, hein, puisque ce n'est pas le fils de Yao qui hérite du trône, mais c'est l'homme considéré comme le plus sage, à savoir Shun, qui est désigné comme digne d'exercer le mandat céleste, le Tianming, à la fois donc d'en haut par le ciel et d'en bas par le peuple. C'est donc un passage qui est censé illustrer l'agentivité du peuple, un mot à la mode, qui est en fait une traduction du concept anglais de agency, hein, c'est donc le peuple a son, justement sa volonté propre pour désigner le souverain, hein. Et alors ce qui est assez éclairant, c'est que si on remet cette très longue citation dans son contexte, hein, il faut bien voir que elle fait suite à tout simplement la section précédente, hein, à savoir donc le Mengzi 5 à 4, hein, qui éclaire donc la dite citation d'une toute autre lumière, hein, comme vous allez le voir. Vous avez donc cette citation dont vous avez ici le début. Je ne la traduis pas en entier parce que ce serait un petit peu fastidieux. Vous vous rendez compte ici que le Mencius se présente un petit peu de la même façon que les entretiens de Confucius, c'est-à-dire sous forme de dialogue. On voit Maître Meng Mencius être considéré comme une espèce d'expert, à la fois justement aussi dans l'art de gouverner, tout comme Confucius, qu'il considère un peu comme son maître spirituel, tout en ayant vécu plusieurs générations plus tard, et comme expert aussi de l'interprétation des textes anciens. Et donc, on voit que Mencius se livre à, très souvent à un exercice d'explication de texte, hein, parce que justement, les gens viennent le voir pour dire « bon, il est dit dans tel classique telle chose, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est conforme au rite ou pas ?» etc. Bon, alors ici, vous avez donc dans cette section qui précède donc la citation que nous venons de lire, un dialogue entre un personnage qui s'appelle Xian Qiumeng et Maître Meng. Alors, Xian Qiumeng, Wen Yue, il demande Yu Yun, Sheng De Zhi Shi, Jun Bu De Er Chen, Fu Bu De Er Zi. Alors, il y a ce yu, ce dicton, hein, on dit communément hein, que lettré d'une vertu exceptionnelle, d'une vertu éminente, ne peut pas être traité comme un sujet par son prince, ni comme un fils par son père. Alors, donc, après avoir cité ce dicton, Xian Qiumeng continue en disant donc, Shun nan mian er li, yao shuai zhu hou bei mian er chao zhi, gu sou yi bei mian er chao zhi, Shun jian gu sou, qi rong you cu, Kong zi yue, yu si shi ye. 天下待哉，急急乎，不是此语，诚然乎哉？ Alors, pendant que Shun se tenait tourné vers le sud, alors donc quand vous êtes dans la position d'être face au sud, ça veut dire que vous occupez le trône, hein, vous occupez le pouvoir. Yao. Donc son prédécesseur à la tête des princes se tenait le visage tourné vers le nord, c'est-à-dire donc dans la position du sujet ou du ministre, hein, et saluait donc Shun comme l'aurait fait un vassal. Et le père de Shun qui s'appelle Gu Sou, hein, saluait aussi. C'est-à-dire donc dans cette position tournée vers le nord. Donc vous voyez tout de suite que il y a toute une sorte de spatialisation du pouvoir. Hein. Donc quand les textes vous disent que quelqu'un fait face au sud, ça veut dire qu'il est le souverain, qu'il est dans la position de pouvoir. Et donc quand vous êtes dans la position inverse, face au souverain, vous faites face au nord et donc vous êtes en position subalterne, donc de sujet ou de ministre. Donc vous avez la scène, Shun est face au sud, donc il règne, et vous avez donc Yao, c'est-à-dire son prédécesseur, et son propre père, le père de Shun, qui se comporte à son égard comme des inférieurs. Shun, donc, en voyant Gu Sou, son propre père, le saluer ainsi, son visage se décompose, hein, c'est-à-dire il perd contenance. Et le commentaire de Confucius, c'est de dire, à cette époque, l'Empire était en grand danger hein, et il menaçait ruine. Hein. Et alors donc, la question de Xian Qiumeng, c'est à Maître Meng, il lui dit, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que vous pensez que ce qui est raconté ici est vrai? Et Maître Meng répond hein, de façon assez catégorique, faux. Non. Ci fei junzi zhi yan, qi dong ye ren zhi yu ye. Alors, ici, vous avez une notation assez amusante. Donc, ces paroles ne sont pas celles d'un junzi, c'est-à-dire d'un homme de bien, d'un sage, mais c'est probablement des propos de ye ren, c'est-à-dire des espèces de rustres, de Qidong, c'est-à-dire de l'est du pays de Qi. Alors ici, vous avez justement, en fait, on voit quelle est la réputation hein, des gens du pays de Qi. Alors il faut savoir que Confucius était du pays de Lu, c'est-à-dire l'autre grande vassalité de la péninsule du Shandong, et Qi étant l'autre partie. Et donc, évidemment, les imbéciles, c'est toujours les autres. Donc ici, Meng Zi répond très catégoriquement, c'est là ce que vous venez de raconter, c'est pas vrai. Ce sont des bobards en fait inventés par des rustres de Qi. Et il continue en disant Yao Lao, Shen She Ye. Yao Dian Yue, Er Shi Yu Ba Zai, Fang Xun, Nai Tsu Lo, Bai Xing, Ru Sang Kao Bi, San Nian, Si Hai E Mi Ba Yin, Kong Zi Yue, Tian Wu Er Ri, Min Wu Er Wang, Shun Ji Wei Tian Zi Yi, Yu Shui Tian Xia Zhu Hou, Yi Wei Yao San Nian Sang, Shi Er Tian Zi Yi. Donc, lorsque Yao fut devenu vieux, Shun partagea avec lui donc le gouvernement, c'est-à-dire Shun l'a assisté comme ministre. Et dans le Yao Dian, c'est-à-dire la règle de Yao, qui aussi fait partie du livre des documents, il est dit 28 ans après que Shun a été associé au gouvernement de l'Empire. Le Fang Xun, c'est-à-dire le bien méritant, c'est le nom qu'on a donné à Yao, le bien méritant mourut, et les habitants du domaine impérial gardèrent le deuil durant 3 ans, comme à la mort d'un père ou d'une mère. Donc là, vous avez ici aussi une notation très intéressante, que le souverain est considéré comme le père et la mère du peuple. Donc il y a une relation non seulement politique, mais c'est une relation politique qui est fondée sur la relation organique entre le père et la mère et le fils. Bon. Dans tout l'Empire, tous les instruments de musique firent silence, on ne les entendit plus. Et c'est pour ça que Confucius dit, et là intervient la phrase qui nous intéresse, le ciel n'a pas deux soleils et le peuple n'a pas deux souverains. De la même façon que le ciel ne peut pas avoir deux soleils, le peuple ne peut pas avoir deux souverains. Et si Shun avait été déjà empereur et qu'à la tête de tous les princes de l'Empire, il eut dirigé le deuil durant 3 ans après la mort de Yao, il y aurait eu 2 empereurs. Et donc c'est ça qui fait dire justement à Confucius au début de la citation, c'est l'Empire était à ce moment-là en grand péril parce qu'il y avait le risque que à la tête de l'Empire il y aurait eu 2 souverains. Ensuite, Xian Qiumeng continue en posant une autre question. Shun zhi bu cheng yao, zhe wu ji de wen ming yi. Donc, le fait que Shun n'a pas traité Yao comme un prince traite son sujet, là, d'accord, j'ai bien enregistré vos instructions sur ce point. Et il continue avec une autre citation du livre des Odes, le Shi Yun. Pu Tian Zhi Xia, Mo Fei Wang Tu, Shuai Tu Zhi Bin, Mo Fei Wang Chen, Er Shun Ji Wei Tian Zi Yi, Gan Wen Gu Sou Zhi Fei Chen, Ru He. Alors, il est dit dans le livre des Odes, sous le ciel, il n'est pas d'endroit qui n'appartienne au roi. Et sur la terre, il n'est personne, jusqu'aux confins de la terre, il n'est personne qui ne soit le sujet du roi. Et la question de Gusso, c'est de demander, la question de Xian Qiumeng, c'est de demander comment Gusso a pu ne pas être le sujet de son fils lorsque Shun est devenu empereur. Alors, je vous passe donc le long commentaire de Mencius, qu'on voit ici à l'œuvre comme maître de l'explication de texte, comme je l'ai dit précédemment. Hein. Ce qui est intéressant ici, c'est le lien qu'il y a entre l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul souverain, pas deux, hein, et l'idée citée dans le livre des Odes que ce souverain est à lui seul maître de la terre entière. Donc ici, vous avez dans ce passage du monde 5 à 4 l'affirmation très claire que, en fait, c'est le souverain qui détient le pouvoir à lui tout seul et l'intégralité du pouvoir. C'est pour ça que ça jette en fait une autre lumière sur le passage qui suit, hein, que la pensée Minben a extrait de son contexte, hein, et pour lui faire dire que le souverain est désigné à la fois par le ciel et le peuple. Hein. Donc ici, on voit bien que le peuple ne joue absolument aucun rôle. Hein. Alors, cette fameuse formule « Tien wu er ri, min wu er wang » se retrouve toujours mise dans la bouche de Confucius dans les traités rituels anciens que sont le Li Ji, c'est-à-dire le traité des rites, hein, que l'on date en général de l'époque Han, hein, et le Ta Tai Li Ji, c'est-à-dire le livre des rites du grand Tai. Qui est un petit peu ultérieur. Mais ce sont deux grandes sources rituelles, et vous allez voir que la formule revient avec insistance. Hein, c'est pas que ça intervient une fois dans les dialogues de Maître Mong, c'est vous voyez la remise en contexte ritualiste tout à fait récurrente. Vous avez d'abord ce passage du Li Ji, chapitre 5, un chapitre qui s'intitule Zheng Zi Wen, c'est-à-dire les questions de Maître Zheng, qui a été un disciple de Confucius, où Zheng Zi Wen Yue, là aussi vous avez la forme de dialogue, il demande Sang Yu Er Gu, Miao Yu Er Zhu, Li Yu. Est-ce que c'est conforme au rite, au li, que dans les sang, c'est-à-dire dans les cérémonies funèbres, il y ait un coup, c'est-à-dire il y ait deux personnes qui fassent office de qui représentent les fils orphelins, c'est-à-dire donc ceux qui reçoivent les condoléances, qui dirigent la cérémonie. Et est-ce que c'est conforme au rite que dans le miao, dans les temples des ancêtres, hein, Erzhu, un défunt, et deux tablettes à son nom, hein. Et Maître Krong répond, Confucius répond, hein, donc avec cette fameuse formule, « Tien wu er ri, tu wu er wang, chang di jiao shi, Zun wu er shang, wei zhi qi wei li ye. » Donc, dans le ciel, il n'y a pas deux soleils. Sur la terre, il n'y a pas deux rois. Alors là, suit une énumération de différents sacrifices officiels, qui représente les sacrifices d'État, c'est-à-dire, bon, vous avez les chang, c'est-à-dire les offrandes d'automne, les ti, c'est-à-dire les offrandes que fait l'empereur aux mânes de ses ancêtres, hein, le tiao, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le sacrifice de banlieue, mais banlieue, c'est pas le 9-3, c'est la banlieue, c'est-à-dire hors du centre de la ville. C'est un sacrifice qui se fait justement aux esprits tutélaires du territoire, du sol, hein, et le che, donc qui est donc ce sacrifice aux esprits du sol. Alors toutes ces offrandes implicitement donc sont présentées à différents esprits, hein, mais conclut Confucius, Tsun ou Erchang. Parmi eux, il y en a un seul à qui on rend un culte et jamais deux. Et donc, ce dont vous me parlez, cette question que vous me posez, ça ne me semble pas conforme au rite. Donc ici, Confucius est confronté à une question casuistique, c'est-à-dire dans certaines cérémonies, on recourt à deux personnes pour incarner les fils du défunt. On recourt à deux tablettes pour représenter un ancêtre décédé, mais Confucius dit il est formel, ça n'est pas conforme au rite. Hein. Dans cet autre passage du Li Ji au chapitre 27, le Fang Ji, donc le traité sur les digues, vous avez cette formule qui est de nouveau mise dans la bouche de Confucius, Zi Yun, Tian Wu Er Ri, Tu Wu Er Rong, Jia Wu Er Zhu, Zun Wu Er Shang, Shi Ming Yu Jun Chen Zhi Bie Ye. Donc le maître dit, dans le ciel, il n'y a pas deux soleils, dans un seul trou, un territoire, il n'y a pas deux rois. Dans une maisonnée, tia, il n'y a pas deux maîtres, et il ne peut pas y avoir deux esprits d'égale dignité qui soient au-dessus de tous les autres et auxquels on rend un culte. Alors cela montre au peuple, parce que le peuple, justement, il faut lui inculquer ce que sont les rites. Cela montre au peuple qu'il y a une différence entre le prince et le sujet. Donc ici, quand vous remettez justement ces citations du Mingbun dans ce contexte textuel, vous apercevez en effet que le peuple est juste bon en fait à morigéner, il est juste bon à recevoir les leçons des élites. Et enfin, vous avez ce passage du chapitre 46 du Li Ji qui s'intitule Sang Fu Si Zhi, c'est-à-dire les quatre principes des règles du deuil, où il est dit donc Zi Yu Shi Fu Yi Shi Mu Er Ai Tong Tian Wu Er Ri Tu Wu Er Wang Guo Wu Er Jun Jia Wu Er Zun Yi Yi Zhi Zhi Ye Gu Fu Zai Wei Mu Zi Cui Qi Zhi Jian Wu Er Zun Ye. Donc la manière dont un fils sert son père est aussi celle dont il sert sa mère, car il leur voue la même affection, Ai Tong. Mais il n'y a pas deux soleils dans le ciel, ni deux rois dans un même territoire, ni deux princes dans un même pays, ni deux maîtres dans une même maison, parce que yi zhi zhi ye, parce que le gouvernement doit être un. Il ne peut y avoir qu'un seul pour gouverner. Pour cette raison, tant que son père était vivant, un fils, à la mort de sa mère, revêtait la tunique de grosse toile à bord ourlé et son deuil ne durait qu'un an. Alors que pour le père, le tarif, si j'ose dire, est de 3 ans. Donc tarif réduit pour la mère et simplification aussi de la tenue de deuil. Et la conclusion, c'est qu'il montrait ainsi qu'il n'y avait pas deux parents à vénérer à égalité. Autrement dit, entre le père et la mère, il y a une différence, la même différence qu'entre le prince et le sujet, c'est-à-dire donc c'est le père qui règne et qui domine seul, et la mère est en position subalterne. Et vous avez exactement la même formule dans le Ta Ta Li Ji au chapitre 39, que vous avez en bas de la diapositive. Je ne la relis pas puisque elle est pratiquement identique. Alors, donc, on comprend bien que tout l'enjeu de l'idée que la pensée Mingpen serait un que ces citations des classiques confucéens seraient un antécédent ou un germe de pensée démocratique. Alors cet enjeu, c'est est-ce que le Mingpen, cette pensée, permet, oui ou non, d'absorber ou de digérer la pensée pluraliste des penseurs politiques européens, hein, Montesquieu et autres, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet de penser la pluralité des pouvoirs, parce que, donc, on l'a bien vu dans toutes les sources ritualistes que nous avons lues aujourd'hui, donc la formule signifie, hein, cette formule, tiens, ou wang, signifie que de même qu'il ne peut y avoir qu'un seul soleil dans le ciel, il ne peut y avoir qu'un seul père, c'est-à-dire un seul chef de famille dans l'ordre humain, et en conséquence, qu'un seul souverain, c'est-à-dire une seule source de pouvoir politique dans l'ordre politique. Donc, vous avez au fond la conception d'un ordre patriarcal qui est en quelque sorte, enfin, qu'on voudrait nous faire passer comme fondé en nature. Puisque, il faut toujours le rappeler, dans la pensée politique confucéenne, c'est le rapport du père au fils qui prime, hein, et qui est le modèle du rapport politique entre le souverain et son sujet, ou le souverain et son ministre. Et donc, les sources ritualistes sont absolument formelles. On ne parle même pas de pluralisme, mais même le « deux » n'est pas possible, à quelque niveau que ce soit, que ce soit le niveau cosmique du tien, du ciel, le niveau politique du kuo, du pays, ou le niveau familial du tia, de la maison, de la maisonnée, parce que yi zhi zhi ye, c'est-à-dire on ne peut gouverner que par le un. Donc déjà deux, il y en a un de trop, quoi. Enfin bon, donc même le aller jusqu'à deux, c'est pas possible. Bon, alors en outre, on voit qu'il y a un parallélisme analogique entre ces trois ordres, entre l'ordre cosmique, l'ordre politique et l'ordre généalogique, trois ordres ou niveaux qui en réalité n'en font qu'un. Et ce un, cette unité originelle et fondatrice, hein, elle porte un nom en chinois, c'est tout simplement le Tao. C'est-à-dire donc le Tao qui résume à lui tout seul donc cette conception holiste, H-O-L-I-S-T-E, donc du grec holos qui veut dire donc tout ou entier. Et alors, ce qui me paraît tout à fait intéressant, hein, c'est que, comme nous l'avons vu ensemble, on nous a beaucoup, beaucoup rebattu les oreilles avec un discours nationaliste confucéen, hein, revisité. Hein. Actuellement, c'est ce qui a véritablement le vent en poupe dans le discours officiel. Autant, maintenant, on commence à entendre émerger une autre petite musique, hein, c'est précisément celle du Tao, hein, qui serait donc le véritable fondement de la spécificité culturelle chinoise. Alors, c'est ce qui est venu nous expliquer, hein, il n'y a pas très longtemps, cet autre universitaire, le professeur Fang Zhaohui, que vous avez ici à l'image à gauche, qui est venu donc invité par nos collègues de l'université Paris-Cité, donner cette conférence qui s'intitule donc Tao. C'est-à-dire comment se fait-il que le Tao soit devenu le principe suprême de la culture chinoise. Alors, ce professeur Fang Zhaohui est un professeur de l'université très prestigieuse de Pékin, l'université Tsinghua, et de l'Institut des humanités. Et apparemment, son exposé avait déjà fait l'objet d'une publication, d'un article, qui est référencé justement sur un site officiel, comme vous l'avez sur la droite de la diapositive. Donc, on peut être sûr que là, on est en terrain agréé, donc officiellement, on ne craint rien. Donc, vous avez ici le résumé de sa conférence, que je vous traduis. Alors, depuis la période des printemps et automnes, le Chunqiu et Zhangguo, les royaumes combattants, le Tao s'est progressivement élevé au rang de principe suprême de la culture chinoise. Cependant, comparé au concept de principe, c'est-à-dire yuanli en chinois, au principe de la philosophie grecque et des sciences humaines et sociales occidentales, ce principe n'a jamais eu une signification claire et précise, et il est impossible d'en déduire les règles spécifiques de toutes les affaires humaines. Par conséquent, ce principe ne peut être considéré que, non pas comme un concept, mais comme une croyance. Le Tao représente en fait la croyance unique en son genre des Chinois. Et comment est-ce que ce Tao est devenu la croyance suprême des Chinois ? Pourquoi est-ce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres civilisations humaines ? On pense que sous le présupposé d'un monde unique, là j'ai surligné en rouge l'expression « yige shijie », c'est-à-dire donc un monde unique. Alors évidemment, ce genre de formule ne manque pas de nous rappeler les diverses formulations du grand rêve chinois, selon le grand leader actuel, la Chine soit au fond un peu le moteur d'un monde unifié, sous sa bannière naturellement. Donc, on pense que sous le présupposé d'un monde unique, la pensée chinoise de recherche du Tao est basée sur les présupposés suivants. Premièrement, le ciel et la terre ou l'univers, c'est-à-dire le monde dans son ensemble, sont une totalité vivante, et cet organisme vivant a sa propre finalité et sa propre valeur intrinsèque. Le ciel et la terre ou l'univers représentent une puissance ou une autorité divine et sublime, incomparable, et toutes les choses, y compris les êtres humains, les sociétés, les nations et tout le reste, doivent exister en conformité avec le but général de la vie dans l'univers. C'est précisément parce que le ciel et la terre ou l'univers sont le seul endroit où tous les hommes et toutes les choses peuvent vivre que son existence doit être considérée comme ayant une valeur suprême. Cet article n'est pas basé sur une quête pratique visant à fournir des informations sur la manière de rechercher la voie, autrement dit, c'est pas un article de science religieuse, mais plutôt il vise à mieux expliquer les présupposés culturels ou les structures psychologiques profondes qui ont conduit à l'émergence de cette notion de Tao. Alors, on va voir un petit peu justement la semaine prochaine, si le Bouddha nous prête vie toujours, comment justement cette conception confucéenne d'une source de pouvoir unique se combine ou ne se combine pas donc avec justement cette vision holiste du Tao. Ça, c'est une question qui me turlupine depuis très longtemps. Je voudrais la soumettre à votre jugement, et donc nous continuerons la semaine prochaine. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.